Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Robert Rivard.
Bonjour.
Et de Jacques Couture.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Être vastement désoccupé ». Ici, tout de suite, moi je pense à l'oisiveté créatrice des Grecs. C'était un des moments hauts de l'histoire où les gens... Bien sûr, quand on pense aux Grecs, c'est une minorité d'hommes riches qui ne travaillaient pas. Mais c'est justement parce qu'ils ne travaillaient pas qu'ils avaient du temps pour philosopher, pour penser, à mon avis, que l'art et la pensée, c'est tellement élevé à ce moment-là. Pour penser, ça prend du temps. Pour réfléchir, ça prend du temps. Et je crois que la société, présentement, elle est créée, au contraire, pour nous enlever le maximum de temps pour justement ne pas avoir à penser à ces choses-là.
En effet, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Nous sommes maintenant à l'ère moderne électronique qui fait en sorte que notre attention est divisée maintenant pas juste avec la famille, nos amis et tout ça, mais plutôt avec des dispositifs électroniques qui demandent notre attention, qui nous amènent à être accro à une vérification inutile, trop fréquente, d'informations inutiles, et non pertinente. Et on nous accroche par le fait que ça change tout le temps. C'est un peu ça aussi le problème avec l'Internet, c'est que ça change tout le temps. Il y a toujours des choses, ça finit plus. Et à moins qu'on fasse une recherche délibérée puis qu'on soit très spécifiquement intentionné sur qu'est-ce qu'on veut faire, c'est facile de se perdre dans cette jungle électronique.
Mais c'est aussi le fait que les gens que l'on côtoie, les activités que l'on fait, le travail, etc., fait en sorte que Monsieur Tout-le-Monde est très occupé. Juste d'aller dans un café, la charge de travail de toute personne, en tout cas dans le service à clientèle, a-t-on vraiment le temps de communiquer, d'avoir un moment d'oisiveté vraiment? La personne qui travaille, est-ce qu'elle aura le temps de pouvoir échanger un petit peu avec les clients? Dans quelle mesure? Je pense qu'il y a aussi ce point-là. Peut-être que je suis confronté souvent avec le fait que dans la vie de tous les jours, dans le contexte public, de voir des gens, mais d'avoir peu de temps. C'est très rapide, furtif. J'ai l'impression que le contact ne se fait pas souvent. Donc, cela me déçoit beaucoup. J'aimerais peut-être que je n'ai pas assez le tour d'insister d'une certaine façon, mais j'aime l'idée de la créativité, d'avoir du temps à soi.
Et cette oisiveté créatrice demande justement d'avoir un break, d'avoir une pause de toute cette attention fractionnée entre les dispositifs électroniques et nos tâches normales. Et ce genre de communication électronique qui nous fait en sorte qu'on est toujours dans un réseau électromagnétique fait en sorte que dans tout le temps être branché comme ça. Cette connectivité-là artificielle, là, comparativement peut-être à une connectivité naturelle qui serait plus de l'ordre de la télépathie ou de l'ordre de la bilocation ou d'autres approches psychiques naturelles, que je considérais plus comme naturelles. À part de ces choses-là, c'est ça, cette réseautique informatique nous amène vraiment à être fragmenté, à être fractionné. Et puis, c'est difficile de faire un pas en avant. C'est plus comme le cha-cha, tu sais, un pas en avant, un pas en arrière, et puis on n'avance pas très vite.
C'est drôle parce que, justement, certains pensaient que la technologie nous aiderait l'être humain à se désoccuper, qu'on peut donner aux robots maintenant la possibilité de faire telle chose que nous, on ne veut pas faire, mais il y a tellement d'autres choses qu'on trouve à faire que finalement, je trouve qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus occupés que jamais. Ils ont moins de temps que jamais. Donc, est-ce que c'est une évolution? Je ne crois pas. Quand on est si occupé que ça, moi, j'aime beaucoup, par exemple, les Zoé Il y a un documentaire sur YouTube qui les ZOE, c'est une tribu qui vit dans, je pense, en Amazonie. Ils sont nus. Ils ne travaillent pas plus que 2 heures par jour. Et ces 2 heures-là, ben, c'est pour aller chercher de la nourriture, chasser.
Prendre soin du faire du jardinage, ouais. Quelque chose comme ça.
Le reste du temps, ils font l'amour, ils se racontent des histoires, ils se racontent leurs rêves, ils jouent. Le jeu est très important. Pour moi, si on enlève le jeu, parce que par exemple, à l'école, la secondaire, le primaire, je ne me rappelle pas que ce soit un jeu. C'était très aride. Le jeu devrait être beaucoup plus prédominant dans l'éducation des enfants.
Mais le jeu amène aussi un autre angle de ça, du désir pour le jeu ou du besoin pour le jeu. C'est plutôt le besoin pour la béatitude, pour le bliss, comme on dit en anglais. Quand je regarde les générations plus jeunes que moi, je vois qu'ils sont à l'écoute claire de cet appel à cette béatitude. Ils veulent le bliss, ils veulent, et puis c'est normal, quitte à en mourir s'il faut. Je dis ça dans le sens où ceux qui l'obtiennent par force ou par consommer des substances, drogue ou quoi que ce soit, c'est un signe aussi qu'ils cherchent cette béatitude. C'est un signe aussi qu'ils ont besoin de ça, même s'ils sont prêts des fois à en mourir à ce point de vue-là, tellement que c'est important de rejoindre un état de jeu, un état de bien-être, un état de béatitude.
Bien aussi s'amuser dans l'idée des occasions, des rencontres, etc. Tu parles de jeu, avoir du temps de se divertir, mais de trouver une occasion de vraiment s'amuser, d'être en contact avec les gens.
Et tu sais, des fois, quand on parle, crois-tu, tu sais, quand on fait l'analogie du César là, qui voyait le gars qui dit « tue-moi », c'était quoi
Alors, crois-tu donc que tu vis?
Que tu vis, oui, c'est ça. Alors, crois-tu donc que tu vis cette métaphore-là qu'on utilise parfois pour indiquer est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on est des morts vivants qui marchent simplement dans la rue puis qui font seulement qu'exécuter des tâches programmées par d'autres? Cette béatitude-là, ce plaisir-là, ce jeu-là qu'on a besoin, je pense qu'il est crucial pour... maintenir cette conscience-là que toute personne éveillée devrait rechercher lors de la transition.
D'ailleurs, si tu parles des hommes de pouvoir, les gens les plus riches ne travaillent pas plus que 10% de leur temps. Mm-hmm. C'est seulement les petits riches, les petits hommes d'affaires qui peuvent être millionnaires quand même, mm-hmm. et qui travaillent comme des fous, mais qui vont mourir d'une crise cardiaque à 50 ans. Mm-hmm. Les vrais grands hommes d'affaires délèguent. Et ils vont faire du PR sur les terrains de golf, etc. Et je crois que c'est là qu'ils ont les meilleures idées. Moi, étant créateur, c'est sûr que je peux trouver des bonnes idées quand je force, quand je travaille sur quelque chose, mais c'est généralement quand je vais être dans un moment vide où je fais rien, où je fume un joint, je fais de la musique, que les idées vont venir pour d'autres projets. Et c'est souvent des idées encore plus claires, plus fraîches, meilleures, parce que elles apparaissent dans ma pensée au lieu que je les construise par force.
Quand les conditions sont propices. Ça me rappelle encore à ramener ça à justement ce que tu parlais tantôt de la tribu des Zoé. Alors, dans la tribu des Zoé, le concept de payer pour vivre n'existe pas. Ils ne payent pas de loyer. T'sais, ils n'ont pas un concept d'un overhead, de dépenses habituelles, mensuelles. Ce concept-là est étranger à la tribu des Zoé, mais pas dans le domaine
occidental, dans nos réalités ici.
Entre guillemets, civilisé.
D'une part, ou sinon, dans les occupations, c'est d'avoir... est-ce que tu n'étais pas poursuivi dans un sens?
Ben, c'est parce que tout ça amène à... Puis je ne veux pas être le prophète de malheur, je veux juste avoir quand même un portrait sobre d'une situation qui est délibérément arrangée pour que les salaires, en général, soient bas, afin de maintenir le travailleur besoin d'un retour au travail pour en faire d'autres argent parce qu'il n'y en a jamais assez et qui fait en sorte qu'il est toujours occupé. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste ses 2, 3, 4, 5, 6 semaines de vacances, peu importe. Et après ça, on retourne. Et puis après ça, c'est quoi? C'est le café pour te tenir réveillé toute la semaine, puis c'est l'alcool pour t'abrutir le week-end, puis on reprend la même baraque.
Mais ça prend racine très, très jeune. Rappelle-toi quand tu étais au secondaire, au primaire, non seulement on allait à l'école le jour, mais le soir, il fallait faire des devoirs. Puis des fois, la fin de semaine, je connais des gens même qui avaient des devoirs pour l'été, Ici, moi, j'étais chanceux. Ici, on n'avait pas nécessairement de devoirs à faire pendant l'été, mais je connais des gens qui venaient, par exemple, de la Roumanie ou de d'autres pays. Ils avaient des livres à lire, des choses à faire durant l'été. Donc, ça fait que les enfants sont toujours occupés. Moi, je trouve ça vraiment ridicule et pernicieux. Mais c'est prévu comme ça pour que, justement, les gens, quand ils sont des adultes, ben, ça soit normal de travailler toute la journée, puis peut-être amener du travail supplémentaire à la maison, avoir une deuxième job. Et ça, c'est un gros problème. Moi, je pense que l'intelligence, c'est de travailler le moins possible. Et si on veut faire de l'argent, mais de faire le plus d'argent possible en travaillant le moins possible. Comme moi, j'ai commencé à un certain niveau au début, quand j'ai commencé, il y a 6 ans à peu près, je chargeais 20 $ de l'heure. Et maintenant, je charge 40 $ de l'heure. Je monte tranquillement. Quand j'ai des clients, éventuellement, je pourrais faire 60, 100, 140, 200.
Si tu n'augmentais pas tranquillement, qu'est-ce que ce serait? Tu dis de 20 à 40?
Non, mais c'est en 6 ans. Oh, oui, j'ai monté à 30, 35, c'est bon quand à 40. Même.
Allons-y tranquillement dans le bon sens.
Bon, nous allons faire une pause musicale avec Broussailles et une chanson qui s'appelle « Le temps de vivre ». Puis nous allons revenir avec ce thème « Être vastement désoccupé ».
Aujourd'hui je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps de vivre, que l'oisiveté me délivre. Aujourd'hui je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps de vivre, que l'oisiveté me délivre. Orteil en éventail, je vais prendre un bain de soleil, oublier le travail dans le plus simple appareil. Je vais mettre mes sens en éveil, révéler l'oisif qui en moi sommeille. Certains penseront de moi que je cède à la paresse, que mon goût pour le repos est synonyme de faiblesse. Mais c'est un cri, un signal de détresse. En d'autres temps, on appelait ça la sagesse. On me blâme quand on me prend à rêver, parce que profiter reste ma priorité. La vie est trop précieuse pour la passer à travailler. Avancer, c'est aussi savoir s'arrêter. Aujourd'hui, je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps de vivre, que l'oisiveté me délivre. Aujourd'hui, je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps de vivre, que l'oisiveté me délivre.
Solaire me caresse dans le sens du poil. Donne-moi des couleurs chaudes pour retapisser ma toile. Je prends la douceur de vivre par la main, ouais. L'emmène se poser tranquille sans penser au lendemain. À l'ombre d'un pin, se balancer sur un hamac. La tête dans les nuages, je profite du spectacle. Je goûte un cône allongé sur ses peaux bronzées. Surfer sur ses courbes, ses belles vagues ondulées. Répondre à ses envies de déguster ce miel. Une chaleur me berce doucement jusqu'au septième ciel. Instant divin, je veux le forfait illimité. J'appuie sur pause pour que le temps puisse s'arrêter.
Aujourd'hui je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps de vivre, que l'oisiveté me délivre. Aujourd'hui je ne vais rien faire, et ça pourrait bien me plaire, de prendre le temps me délivre, me délivre. Ouh, prendre le temps de vivre. Yeah, yeah, yes, me délivre.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Être vastement désoccupé ». Laissez tomber les occupations qu'on nous met sur les épaules est, à mon avis, une grande preuve de sagesse. Et ça, c'est permanent parce qu'il y Il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui va nous dire, nous inviter à faire ci, à faire ça. Je dis pas nécessairement de tout rejeter en bloc, là, mais je pense qu'il faut être sélectif. Il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, quelle occupation serait bonne pour nous et quelle va nous brimer. Ben, moi, je fais beaucoup de bénévolat. J'ai beaucoup de projets où je ne suis pas rémunéré, mais je retire un tel plaisir que pour moi, ce n'est pas du travail. Alors que si je serais obligé d'aller dans un bureau à tous les jours, me lever le matin à une heure qui n'est pas naturelle, ça serait une forme d'agression. Et pour moi, j'ai toujours été capable de dire non. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à me désoccuper le maximum possible. Depuis 5-6 ans, je suis peut-être un petit peu plus occupé parce que, bon, il faut que je paye mon loyer, etc. Mais je garde toujours à l'esprit que c'est le plus intelligent, c'est de travailler de moins en moins. Donc, j'augmente peu à peu mes tarifs pour éventuellement faire plus en travaillant moins, parce que pour moi, c'est évident que ça me prend du temps pour écrire mes livres. Sinon, je deviens agressif, je deviens stressé, parce que je sais qu'il faut que je sois un créateur. Et donc, un peu à chaque jour, je m'efforce de travailler sur des projets personnels, parce que sinon, je me sens dévitalisé. Je ne peux pas simplement travailler pour les autres. Ça, c'est autre chose. Pour moi, je peux être chez moi en train de rien faire, et tout d'un coup, je commence à faire mon site web. Pour moi, c'est pas du travail. Ça, c'est un plaisir. Donc, il faut savoir faire la part des choses et savoir dire non, parfois. Non, merci.
Eh bien, Nicolas, moi, au premier abord, ça m'a bien étonné de t'entendre dire que tu fais du bénévolat dans ce sens-là. C'est pas que tu t'investis pas dans des choses sociales ou autres, mais je veux dire, souvent, on entend le bénévolat, les gens qui en font. Pour eux, c'est vraiment une valeur morale suprême, hein, d'aider son prochain. Je pense que la manière dont tu l'amènes, la manière dont tu dis que tu en fais, ça ne cherche pas cette fin-là en soi, que d'aider absolument quelqu'un à tout prix, mais aussi, ça, je pense que ça va plus dans le sens de tu es créateur de ce que tu souhaites, de ce que tu t'investis, là, auxquelles les tâches et les choses, désolé, je bafouille. Donc, tu vois ce que je veux dire.
Ça attire à moi les amis de mon essence un peu plus facilement, parce que quand tu es dans le bénévolat, ben, tu n'es généralement pas avec des gens qui ne veulent pas être là, parce que tu n'es pas payé, premièrement. Par exemple, là, je fais partie du comité francophone de Radio Centre-Ville. On n'est pas payé. On a du plaisir à le faire, puis on est là parce qu'on y croit. C'est pas un incitatif monétaire qui fait qu'on est là. Donc, pour moi, c'est ça la différence. Je suis pas occupé dans le sens où je serais obligé de faire quelque chose. Je peux toujours me retirer.
Oui, ça va peut-être suivre une continuité dans ton plan. Quoique, j'en ai pas de plan vraiment de carrière, peut-être t'en as pas non plus, mais je veux dire dans une perspective de projet, de défi auquel tu souhaites t'investir. Là, il y a une continuité, il y a une suite logique dans ce que tu fais par l'émission de radio ou par ton travail comme travailleur autonome. Donc, de t'investir dans un organisme communautaire, c'est comme une continuité.
Même là, ça peut être un danger. Oui. Le danger du bénévolat, quelqu'un qui en donne trop. Oui, je pense que si tu es tellement occupé que tu n'as plus de temps pour ta compagne ou ton compagnon, tu n'as plus le temps de prendre du temps pour réfléchir, d'écrire ton journal, là, il y a un problème. Parce qu'il y a comme une décentration. Et ça mène, après plusieurs années, à mon avis, ça mène pas au bonheur. Ça mène au contraire à une dépression, t'as trop travaillé. Combien de gens font des burn-out aujourd'hui dans notre société? C'est comme un mot-clé sur Google, là, burn-out, comment survivre.
Trouble de l'adaptation et tout, et autres symptômes semblables.
En effet, tout ça c'est vrai. Ça reste que le bilan, c'est si on fait un bilan plus-moins dans cet univers de dualité, ben, c'est une question de faire le plus d'activités qui nous fait sentir bien complètement le temps quand on parle d'un critère de qualité, on peut amener des choses comme que ce soit un plaisir, que ce soit que le temps passe vite, ou encore un des critères d'Alan Watts dans un de ses discours célèbres, qu'est-ce que tu ferais si l'argent ne serait aucunement une question à considérer. Quelle occupation ferais-tu? Tu ferais quelque chose sûrement qui te plairait. C'est quelque chose que tu ne ferais tous les jours, même que tu te lèverais à faire sans seconde pensée, sans arrière-pensée. On est souvent loin de cet objectif idéal-là, mais c'est un peu un critère à considérer quand on essaie de nettoyer notre horaire et puis de libérer du temps ou de faire des activités d'une qualité supérieure comme telle.
Mais ça amène à réfléchir à un sujet qui t'intéresse aussi, c'est le salaire de base ou salaire minimum.
Salaire à vie.
Garantie. Salaire à vie.
Oui.
Ça serait un tel délice parce que moi, je l'ai vécu. J'étais sur l'aide sociale pendant près de 10 ans et j'étais vastement désoccupé. J'étais totalement désoccupé. Et j'ai grandi comme ça se peut pas dans ces années-là parce que j'avais du temps pour tout ce que je voulais. Et c'est pas nécessairement le cas présentement. Donc, c'est sûr que mon idéal, c'est d'y revenir. Je voudrais pas retourner sur l'aide sociale, mais je voudrais arriver à un point où j'ai plus besoin de travailler. Je crois que ça reste une utopie pour l'instant, le salaire à vie, là, mais... Si on y pense beaucoup...
Bernard Friot, en passant, c'était recherché. Bernard Friot fait un excellent éloge et cas pour le salaire à vie et où les ressources pourraient y provenir pour le maintenir. Puis les ressources existent. C'est juste qu'il faut s'ouvrir la pensée puis s'ouvrir l'esprit à ces choses-là.
Eh bien, moi, je dois dire que je suis quelqu'un qui est toujours assez occupé avec mes trucs personnels, chez moi, dans mon logis, avec mes affaires. Donc, je pense que je suis en train vraiment de changer radicalement. Pas je pense, je suis en... Je m'inscris là-dedans, là, je suis à le faire. Jusqu'à maintenant, j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie, mais encore récemment. Puis, j'ai découvert que j'ai plein de choses que j'ai encore une fois, que j'utilise pas. Donc, pour moi, je veux simplifier beaucoup tout ce qui est les objets. Pour moi, j'ai de la difficulté avec les objets, dans le sens que ça m'accapare, ça me prend du temps. Je réussis rarement à me retrouver désoccupé parce que j'ai toujours du ménage, à ranger ceci, cela, mettre en valeur tel objet et tout. Je sais pas trop où je suis. Depuis l'année passée, j'ai éliminé à deux reprises la moitié de mes meubles. Donc, c'est un grand exercice d'éliminer des meubles. Donc, ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait beaucoup de bien.
Ça fait japonais, ça fait zen, ça fait
ouais,
de l'espace.
J'en suis pas encore là. Ouais. Dans le zen, là, mon appartement est plus petit, j'ai encore moins de meubles, mais quand même là, je suis dans mon exercice de ménage intégral, de mes affaires, puis ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait beaucoup de bien, ça laisse la place au nouveau. C'est une pensée populaire qui dit ça, mais je le réalise, je le vis.
Il y avait une époque où les Japonais dans l'industrie disaient, leur motto c'était « less is more ». Donc, quand tu utilises moins, tu donnes l'impression de plus. Et puis, quand tu regardes l'aménagement d'un appartement japonais, tu vois qu'il y a vraiment un accent sur la simplicité. Et c'est une simplicité, puis c'est très sobre. Il y a peu de choses dans un appartement zen. Et puis, en même temps, ça te fait donner un espace. Tu veux l'espace, tu veux vivre dans un espace comme ça. C'est comme tu te sens désireux d'avoir un espace serein comme ça. Simple et puis facile à comprendre pour les yeux. Et il y a quelque chose à dire là-dessus.
C'est vrai que l'espace dans lequel tu vis te représente généralement. Quelqu'un qui est super occupé, qui son esprit est plein de choses, la maison est remplie de détails, de petites choses, alors que quelqu'un d'autre qui est capable de faire le vide. Moi, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises, me débarrasser des choses qui n'étaient pas nécessaires parce que je n'avais pas nécessairement de place. Puis justement, parce que je voulais avoir de l'oxygène, je ne voulais pas me sentir... Moi, pendant l'époque où je ne travaillais pas, j'ai fait une centaine de toiles, puis c'était des fois des 4 pieds par 4 pieds, ça prend de la place. Et mon appart était plein, et il fallait toujours que je pense à bien serrer les choses pour ne pas les abîmer, premièrement, mais aussi pour ne pas qu'ils soient dans les jambes, puis parce que c'était trop, puis j'ai tous les livres, puis... Donc, j'ai moi-même sabré aussi Là, maintenant, je suis à l'essentiel. Je peux regarder ce que je possède. J'ai rien qui est de trop, il n'y a rien que je peux me débarrasser.
Oui, j'aime bien l'idée de zen et tout, etc., mais je trouve quand c'est trop dépouillé, en même temps, je trouve ça me semble ennuyant. En tout cas, c'est pas tout à fait mon style. Même si c'est un peu contradictoire, ma façon d'exprimer les choses, hein. Mais en même temps, j'aime avoir des beaux objets, mais là, au moins, rien de trop volumineux non plus, là.
Bien, on va en profiter pour faire une pause musicale avec une chanson de Ménélic qui s'appelle Tranquille. Puis nous allons revenir avec ce thème, être vastement désoccupé.
Sur les lignes de mon cahier, je les apure. C'est comme là, ton père le rôle, il est négociation. Je poursuivais le but, tu dans un but d'union. Laisse faire le rythme sans à coup, il se déroule, cool. À souhait, il apaise les poules. Il prend tout son temps, qu'importe s'il est là. L'important est qu'il t'emporte dans son élan. Ouais, ok, il te soutient, refait. Parfait le style pour toi, n'a plus de secret. Le griot que je suis ou que je prétends être veut calmer ton importé des harnettes. Suis-moi ou plutôt suis le rythme qui t'invite à te connaître jusqu'aux limites, tranquille. 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 Tranquille, le style défile. Tranquille. Tranquille. M-E-N-E-L-I qui avise le mille. Longtemps, oui, longtemps, en observant patiemment, j'ai attendu le moment présent de prendre le stylo en solo, laisser libre cours au flot de mots, et ceci sans défaut, sur un tempo comme celui-ci, il t'enveloppe, prend le contrôle, et vers lui tu es full up. Écoute ce son si cool, pas de doute, calme-toi, pas après phase, tiens, goûte à ce nectar si rare qui te pénètre, inspire ton air, sans jamais laisser transparaître. La joie qui te prend dans l'instant où tu l'entends, cela reste entre nous, bien évidemment. Le style défile tranquille, je t'invite à voir pas à pas où te mènera sans histoire. Elle m'inspire sur ces quelques lignes qui ruissellent, la muse de plus en plus belle, délivre le beat qui s'en mêle. Tranquille. Tranquille. Tranquille, le style défile. Tranquille. M-E-N-E-L-I qui avise le mille. Le style défile pendant que le temps file. La ville m'horripile car des enfants deal. Le venin se faufile sur la veine et te kill. Le style défile pendant que le temps file. Car je t'emmène en balade sans salade. Je t'évade et cette musique pop désormais si fade. Le griot de la tribu M-E-N-E-L-I-K possède en tout cas la clé qui chasse tous tes tracas. Au fur et à mesure, tu te sens plus sûr, plus mûr. Déjà payé à coup sûr, à cette censure. Je vends du rêve, je suis un peu comme la sève qui coule en toi, te calme, apporte la trêve. Nous le savons, tu attends depuis longtemps ce son. Fait maison de la TRIBU en action. Loin du stress qui te presse, de la cité qui te broie. Degré de ses murs, dont tu es l'unique proie. Cool, M-E-N-E-L-I-K à mon la voix, de la voix tout droit au paradis, il t'envoie. Immobile, tu captes le rêve que je dis. Naturellement, un seul mot s'impose. Tranquille. Tranquille. Tranquille, le style défile. Tranquille. Tranquille. M-E-N-E-L-I qui avise le mire. Shoot. Tranquille, Ménel et la tribu sur le tir. Maximum de respect. Les gars de Paul, tranquille. La Leda, tranquille. Jimmy Paul, tranquille.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Être vastement désoccupé ». Moi, je considère que les hommes d'affaires pressés sont en train de mener le monde au désastre. On ne devrait pas les suivre, on ne devrait pas les écouter quand ils nous parlent avec leur discours motivateur d'en prendre toujours plus, d'être plus occupé, d'être plus riche. Pour moi, la richesse n'est pas au niveau de l'argent, l'argent en tant que tel. Je considère généralement même que les gens très riches sont des gens pauvres. Pauvre en idées, pauvre à plein de niveaux. Moi, je trouve que quand tu as peu de ressources, tu as une créativité qui ressort. En tout cas, dans mon cas, n'ayant presque pas d'argent, j'ai trouvé des moyens astucieux de trouver de la peinture, de trouver des matériaux pour faire mes toiles quand j'étais dans la vingtaine. Puis j'en avais, là, je trouvais toujours du matériel. Ou on m'en donnait, ou... Et tout était donné, je trouvais mes meubles dans les rues. Moi, ça ne me dérangeait pas là, d'avoir un divan un peu cassé. Là, pis... Parce que en même temps, je me disais, ben cet argent que j'ai, je ne suis pas obligé de travailler pour payer ce divan, ou pour payer ci, ou payer ci, payer l'auto. J'avais rien à payer. Donc, le maximum que je pouvais. Et j'ai conservé cette pensée maintenant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime voyager. Techniquement, parce que ça me coûterait quelque chose. Mais si on me payait tout et puis tout était inclus, je dirais peut-être oui. Mais s'il faut que je paye, non. Si j'ai à payer, je vais payer mes livres. Je vais payer pour mon site Internet. Je vais rester dans l'essentiel parce que pour moi, être vastement désoccupé, c'est la chose la plus importante. C'est la preuve, pour moi, c'est une preuve d'intelligence. Quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai rien à faire », je dis « Wow, t'es très intelligent ». Mais là, on ne parle pas de ne rien faire là, comme un perdant là, qui fait juste regarder la télé toute la journée en buvant sa bière. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que tu peux t'asseoir dans un hamac, rêver, penser à des idées? Ça, pour moi, ça, c'est l'intelligence, c'est l'esprit.
Bien, déjà, tu nous fais voyager avec tout ce que tu nous parles, Nicolas. C'est bien, j'apprécie. Ça nous remet en question, mais ça me remet en question aussi dans mes priorités. Mais j'aime, moi, au contraire de toi, je raffole de voyager. Pour moi, d'avoir à travailler un peu, en tout cas à m'investir dans un élément rémunérateur. Ouf! Voilà, j'ai réussi à dire ce mot. J'apprécie donc de mettre de l'argent de côté. C'est mon réflexe premier. Parce que pour moi, c'est une priorité, c'est ce qui ça m'anime beaucoup. J'aime découvrir, j'aime la variété aussi. Donc, dans ma vie de tous les jours, si je peux changer ma réalité, qui devient vite une routine, même si je ne suis pas quelqu'un qui vit selon une base de routine, le moins possible. C'est une chose que j'apprécie de mon travail aussi en ce moment, c'est que je suis sur des horaires variables. Je trouve que ça change totalement la qualité de vie, en tout cas pour moi. J'apprécie beaucoup de pouvoir commencer à l'heure que je veux. C'est sûr qu'il y a des balises entre 7h30 puis 10h moins quart, mais quand même, d'avoir une latitude de varier mes journées, d'avoir des journées où que je travaille peu, des journées que je travaille plus selon mes styles, selon mes goûts ou mes activités, comme là aujourd'hui, j'ai terminé tôt parce que j'avais un enregistrement pour cette émission. Donc, j'aime ça crée des éléments pour trouver un moyen de se motiver. Comme moi, ma motivation pour au jour le jour, c'est de dire, ben là, comme là, je m'y prépare déjà mentalement. Je sais que mes vacances en viennent dans quelques semaines. Donc, pour moi, toujours quand j'ai des vacances en vue, bien, je continue à m'occuper, à m'affairer aux activités principales.
Très bien dit. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. C'est ce que Nicolas disait au début. Bon, il parlait des hommes d'affaires et puis... En bref, on nous demande beaucoup de donner notre attention à ces gens-là, à ces choses-là, que ce soit des gens, des patrons, la vente de la fête des pères ou la vente de la Saint-Jean-Baptiste, ça, c'est une fête ici au Québec, ou que ce soit n'importe quelle occasion, ou que ce soit... des situations où l'attention est requise par les dispositifs électroniques qu'on parlait tout à l'heure. Notre attention est toujours sujette à être dans une trappe, il y a plein de choses qui demandent notre attention. Et notre attention, c'est vraiment tout ce que l'on possède. C'est vraiment ça. Notre point de référence à tout moment dans le moment présent, de l'ultime microseconde du moment, c'est notre attention. Et c'est ça vraiment qui est notre capital. C'est ça qu'il faut soigner. C'est ça qu'on doit guérir, qu'on doit bien entretenir, parce qu'on ne possède que notre attention. Et c'est celle-ci qui nous amène où on veut aller. Et ça, c'est libre à soi. Et cette compétition pour l'attention par tous ces autres phénomènes externes à nous, il faut bien en prendre garde parce que on ne pourra pas être créatif, on ne pourra pas laisser la chance aux muscles psychiques de faire leur entraînement, de travailler pour nous, de faire en sorte que, qu'est-ce qu'on a déjà parlé ici dans les émissions, de faire en sorte que si on s'intonise sur la bonne fréquence, on va pouvoir faciliter notre parcours. Notre parcours va être prépavé des événements, des circonstances, des gens qui vont faire en sorte que nous allons arriver à nos fins, à nos désirs, à nos buts. Mais si on est toujours à la merci de l'attention d'un iPhone ou à l'attention d'une mise à jour sur Facebook ou quoi que ce soit, on se trouve à échanger ce capital d'attention-là pour un produit qui est vraiment pauvre.
Et c'est un phénomène très nouveau, hein. Ça n'existait pas il y a 5-6 ans. Les gens n'étaient pas aussi accrochés.
Ouais, c'est ça.
Maintenant, tu vois les gens marcher dans les rues en lisant leur cellulaire. Même hier, je voyais quelqu'un en vélo. Elle était en train de lire pendant qu'elle était sur son vélo. Elle lisait son
ou envoyer un message texte, répondre à ses amis là, comme ça. Comme
tu peux pas le fermer, ton foutu cellulaire, pendant un certain temps. Je comprends vers quoi ça s'en va. Ça semble être une connexion, mais en fait, moi, je trouve que c'est une déconnexion. Avant, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais dans la vingtaine puis j'allais prendre des cafés, c'était encore une époque où les gens allaient prendre des cafés pour parler entre eux. Et maintenant, c'est complètement, radicalement changé. Tu vas dans un café, il y a 3-4 personnes qui sont en train de prendre un café, qui sont vastement désoccupées, mais le reste sont toutes sur leur cellulaire ou sur leur iPad.
Pour profiter aussi du service d'Internet sans fil, du café ou du restaurant.
Moi, les motivations sont multiples, et puis on ne peut pas dire que c'est toutes des gens qui ont tombé dans le panneau, mais c'est quand même une observation importante, je crois, qui doit être mentionnée. Et aussi, ce genre de multitasking, ce concept erroné que je trouve empoisonné de la société moderne, de faire 4 choses en même temps. Comme tu disais tantôt, l'exemple de Nicolas, c'était la dame qui fait du vélo en même temps qu'elle lit son iPad ou je sais pas trop quoi, là. Ça, c'est quelqu'un qui dit « c'est pas important, mon exercice puis mon attention sur le trafic, c'est plus important que je puisse faire tout à la fin de la journée ». Fait qu'il faut qu'elle lise ses mises à jour en même temps qu'elle fasse son vélo, tout ça.
C'est ça au gym aussi. Je vais au gym, mm-hmm. Les gens, ils sont en train de faire le tapis roulant en chattant. C'est complètement ridicule.
Ouais.
Pourquoi? Concentre-toi sur ce que tu fais. Parce qu'il y a un principe, quand on fait un entraînement, c'est de la conscience musculaire, de se concentrer sur les muscles que tu veux travailler.
Exactement, puis d'être sensible à ce qui se passe dans ton corps. Et puis là, on fait du fractionnement d'attention. Qu'est-ce qu'on en retire aussi? C'est très peu. Effectivement, tout le monde perd là-dessus. Puis, tu sais, regarde la direction de la technologie. La technologie, elle se dit, c'est vrai? C'est dans le chemin, le iPad, le truc? Ben, on a les Google Glasses à cette heure, tu sais. Donc, c'est la dernière chose, c'est Google qui s'en vient avec ses lunettes qui vont projeter les images du graphique normalement en 3D pendant que vous portez des lunettes. Vous allez pouvoir voir un peu comme Terminator, c'est ceux qui ont vu le film et puis les effets spéciaux. Les informations vont être projetées sur les lentilles. Alors, c'est ça la solution, c'est là où on s'en va. Et plus bientôt, ça va être un implant, ça va être un chip, une puce qui va être dans l'œil. Donc, on n'aura plus besoin de dispositifs externes, on va être complète. Alors, c'est cette direction-là, c'est une direction cyborg. On veut se rendre, on veut. Pour moi, je vois ça comme rendons l'être humain comme une composante électronique qui va bien avoir sa place dans le circuit et puis qui va faire son travail.
Mais si on pense au bonheur, je pense qu'il faut aller dans le sens contraire. Mm-hmm. Le moins possible, autoriser la technologie à prendre notre attention. Mm-hmm. Je dis pas de tout couper. Moi-même, je fais des sites Internet, donc je suis très connecté, mais j'ai pas de cellulaire, par exemple. J'ai le vieux cellulaire de ma compagne, mais il n'y a pas de téléphone dessus, donc je peux pas vraiment l'utiliser comme la majorité des gens. Et quand je sors de chez moi, ben j'ai rien sur moi qui va sonner, j'ai rien qui va attirer mon attention, donc je me sens bien, je me sens libre, et maintenant tu peux plus aller prendre un café avec quelqu'un, il va toujours mettre son cellulaire sur la table, puis il va t'interrompre, le cellulaire va sonner, et moi ça mérite beaucoup ça, cette manière dont les gens ont aujourd'hui d'interagir. Ça, c'est le multiprocessing dont tu parles.
Oui.
Ça, c'est peut-être un des mauvais côtés. Quand tu fais trop de choses, est-ce que tu les fais bien?
Tu les perds. Tu perds au change. Tout le monde perd avec ça. C'est vraiment... T'sais, ça me fait penser à un joke ou à une image comique que j'ai vue sur l'Internet où que tu vois l'image d'une forêt et il dit « Il n'y a pas de Wi-Fi, mais tu vas avoir la meilleure connexion possible. » Puis la connexion, dans ce cas-ci, bien sûr, c'est avec la nature.
C'est pas très in présentement. Ça s'entend. Alors, ben on va aller écouter une chanson de Oliver... On va écouter une chanson d'Oliver Stein qui s'appelle « Fier de ne rien faire ». Ça sera pas nécessairement dans le goût de Robert, c'est du punk, mais ils ont un discours qui va vraiment dans le sens de notre émission aujourd'hui. Donc, je l'ai mis en ce sens.
Vive l'expression libre.
Et puis, on va revenir après la pause avec ce thème « Être vastement désoccupé ». À propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Être vastement désoccupé ». Si on est désoccupé, si on a du temps, on peut sauter sur les vraies opportunités. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans ma vie parce que j'avais du temps et je pouvais observer les choses. Quand on est trop occupé, j'ai l'impression qu'on prend un peu n'importe quoi, qu'on mange un peu n'importe quoi sur le bord de la table, à la va-vite. Alors que quand on a le temps, mais on peut se faire un très bon repas, on peut faire plaisir à sa compagne, à son compagnon. On a du temps pour les choses importantes. Et pour moi, c'est sûr que ça contribue au bonheur, parce que finalement, le thème de cette émission étant le bonheur, en quoi le fait qu'on est désoccupé peut nous amener du bonheur? Je pense qu'on est plus relax, on est plus à même de jouir de tout ce qui nous arrive. On a du temps pour voir les choses arriver. Et pour moi, ça, c'est un avantage. Je sais que c'est pas comme ça que la majorité des gens pensent. Moi, je me souviens très bien que j'étais considéré par beaucoup de gens comme un perdant quand j'étais sur l'aide sociale. Parce que je travaillais pas. Parce que je suivais pas le modèle. On me disait, ah, on paye pour toi. On sait bien que c'est pas vrai. L'argent qu'on nous prend pour les taxes va directement au banquier. Donc, c'est pas quelqu'un qui paye des taxes qui venait payer mon aide sociale directement. Mais dans cette pensée, et je pense que l'appareil manipulateur plutocratique a enseigné aux gens à se manger comme des chiens en un et l'autre. Donc si l'autre est heureux, on va le rendre malheureux, on va couper ça. On va faire en sorte que ça va être difficile.
C'est ça, ils ont valorisé le travail fort, travailler dur à la sueur de son front, ça c'est bon.
C'est ça.
Mais se laisser aller, prendre son temps, prendre pause, flotter un peu pour sonder l'air, sonder le sens des choses, ce qui est perçu comme un non-travail non productif, Ça, c'est mauvais. C'est méchant. Mauvais. Donc, c'est à peu près pas plus compliqué que ça. Les gens fonctionnent encore pas mal de la même manière. Il n'y a pas de mérite à être oisif, à être en un genre d'état de suspension, d'observation et de ressenti. Mais il y a beaucoup d'accords sur quelqu'un qui va travailler d'arrache-pied et qui va sacrifier corps et âme, peu importe, dans le but de... absolument, le trophée habituel, c'est accumuler de l'argent. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Ça, on fonctionne encore sur ce mode-là.
J'ai un réflexe lorsque j'ai beaucoup d'activités personnelles à faire. J'aime mon appartement propre, comme la plupart des gens. Donc, si j'ai des tâches à faire, entretien, ménage, etc., je pense que pour... Je le vois, en quelque sorte, je le fais comme une récompense, mais je pense que si je commence par aller dans un parc, un jardin, me faire plaisir en premier lieu, sans doute, ben mon ménage, mon lavage et tout, je le ferai pas. Donc, je pense que je vais commencer par les choses... mes tâches courantes, pour ça devient comme une sorte de récompense, là, évidemment, sortir, avoir du temps, un petit peu de temps pour moi, mais encore là, je le disais tout à l'heure, j'ai de la difficulté à avoir du temps pour moi. J'ai pas encore bien réussi à le faire, je le fais de plus en plus. J'ai été récemment dans un parc au printemps, ben c'est le jardin botanique près de chez moi. Il est juste à côté, il est tellement proche que on dirait que j'ai jamais le temps pour y aller. Puis j'habiterai à l'autre bout de la ville, j'irai peut-être plus souvent. Donc, parfois, il y a des paradoxes personnels, mais j'ai toujours aimé beaucoup la végétation, la nature, etc. Puis, j'ai passé un segment de journée, là. J'ai passé peut-être 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Puis j'ai marché tellement. Mais là, donc, il y aurait peut-être moyen d'y aller en restant proche. Je me suis fatigué, je pense, un peu. J'ai peut-être voulu trop en voir. Plutôt que d'aller près de l'étang, de m'arrêter, de rester paisible et tout, regarder les gens. Ça m'étonne, moi, quand je vois les gens regarder ce qui se passe autour d'eux et rester immobile. J'ai toujours eu de la difficulté avec ça. J'ai un tempérament, un style de métabolisme un peu accéléré qui aime toujours faire quelque chose. Rester assis longtemps, j'ai bien de la difficulté. C'est pas parce que je m'ennuie, par contre, mais je trouve ça difficile. J'ai besoin de bouger.
Je me rappelle, il y a quelques années, je faisais de la méditation, beaucoup de méditation, et puis c'était l'enfer. rester assis comme ça, les jambes croisées là, pendant 1 heure, c'était l'enfer.
Est-ce que tu as eu des effets bénéfiques après coup?
Oui, c'est sûr qu'il y avait les effets bénéfiques, mais toujours, c'était difficile d'avoir la pensée vide, à rien penser. J'ai fini par arriver à un point où j'étais beaucoup plus en paix, mais au début, c'était l'enfer. Et puis, mon cerveau, moi aussi, il est très, très volatile. J'ai toujours des idées, des choses comme ça. Donc, c'était difficile de ne rien faire, de rester assis. Parce que toujours, c'est cette pensée qui revient, la moralité. Tu devrais faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, là, c'est ça qui est discuté dans le livre de Castaneda quand Don Juan parle de cette manœuvre stupéfiante que l'ennemi ultime a faite contre nous. C'est qu'il nous a donné son esprit. Et c'est comme dans le texte, comment je le comprends, c'est comme si on aurait un ajout dans notre constitution qui est un item, un mental actif qui ne cesse de placoter et nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, les doutes, les peurs qui nous demandent tout le temps, mais fais attention parce que tu vas avoir faim, tu vas manquer de nourriture, tu vas être en manque. Donc, agis, prends accepte ta peur, prends tes peurs et puis fais ces choses-là. Il y a cette voix-là qui nous est donnée, je crois, d'une manière qui est encore à définir, mais qui contribue à cette... non-paix. Parce que l'antidote de ce que vous parlez, les amis, je suis pas capable de tenir sur place, je suis pas capable de rester tranquille ou quoi que ce soit. L'antidote, d'après moi, à ça, c'est de faire les choses de manière en conscience, d'être en conscience, d'être dans le 100% du moment. T'sais. Et des fois, ça demande de ralentir. Autrement dit, de ne pas manger vite. Tu sais, de manger, là, de tourner, de mâcher 25 fois là, avant d'avaler. Là, tu sais, là.
Et de déposer la fourchette entre chaque bouchée.
Quitte s'il faut.
S'il le faut.
S'il le faut. C'est parce que c'est vous autres qui décidez à quelle vitesse vous naviguez votre autoroute. Là. Et puis si vous n'êtes pas capable de vous sentir confortable en paix et sécure, eh bien, vous allez vouloir faire les choses vite pour là, qu'on débarrasse jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine station de d'essence ou station de repos pour voir si on peut s'asseoir cette fois-ci. Tu sais. Je théorise en ce moment parce que je connais des gens aussi qui sont pas capables de s'asseoir, sont pas capables de rester tranquilles, sont pas capables de rester silencieux. Ils doivent meubler tout moment, tout espace, tout mot avec une conversation. Ils sont pas capables de respirer. Puis d'être, pour quelques secondes, juste de se regarder dans les yeux puis se dire, « Ah, je suis bien là, ça va, tout est beau. »
Tu sais, l'autre aspect, on sait, c'est que les gens qui nous entourent, souvent, ils vont nous mettre une pression, ils vont nous donner des tâches qui ne sont pas toujours nécessaires. Et ça, c'est pas toujours évident de dire non. Par exemple, moi, ce mois-ci, j'étais vraiment, là, j'avais le goût de faire mon site Internet personnel. Ça faisait des années que j'attendais et... Je pouvais pas juste le faire sur le coin de la table, donc j'ai dû m'immerser totalement et j'ai dû dire non à beaucoup de choses que ma compagne voulait que je fasse. Elle voulait aller faire du camping. J'étais obligé de dire non. Elle y est allée quand même, elle y est allée sans moi. Et il y a plein d'autres choses qu'elle a fait dernièrement sans moi et ça l'a un peu choqué. Mais en même temps, moi, je vois bien que j'avais besoin de cet espace pour créer mon site, penser à moi, placer mes choses, que ça soit bien fait. Parce que c'est pas pour faire un projet aussi vaste ou comme écrire un livre, ça me prend du temps. Je peux pas par exemple prendre juste une demi-heure puis commencer à retravailler mes textes. Quand je retravaille un livre ou un texte, ça me prend toute la journée. Mais parce que j'ai besoin d'entrer dans un état d'esprit, dans un certain calme, de n'avoir rien à faire, de pas avoir à répondre au téléphone. Et ça, c'est des choses qui sont très difficiles à croire et à comprendre pour la majorité des gens. Parce que la majorité des gens sont vastement occupés. Et si on ne l'est pas, c'est incompréhensible. C'est comme, qu'est-ce que tu fais?
Mm-hmm. Et la mesure du succès, c'est combien d'occupations, d'activités, de voyages planifiés, d'un horaire chargé et bien rempli de toutes sortes d'activités X, Y, Z qui sont une norme, une mesure, supposément, d'une vie à succès.
Il y a une activité qu'on nous avons pas encore parlé, mais qui est une activité, c'est faire l'amour, qui est justement pour être un bon exemple de quoi nous ramener à l'ordre, justement dans l'oisivité créatrice, dans le sens de répondre à nos libidos, au désir de rencontre, etc. Moi, je suis stimulé à l'idée d'avoir de nouvelles rencontres, d'aborder tout le temps des gars nouveaux, etc., des gens qui me plaisent dans toutes sortes de situations de la vie de tous les jours. Donc, si je m'y consacre, si je réponds par amour de moi-même, parce que je pense qu'il faut s'aimer beaucoup pour pouvoir se dire oui totalement à ces nouvelles expériences-là, puis il y a tant de contraintes, les gens disent « Ah, j'ai une timidité, je suis pas à l'aise d'aller vers les gens, etc. » Mais justement, on devient de plus en plus créatif que d'aller vers les gens et d'oser le faire.
Bien, moi je vous souhaite, chers auditeurs, de prendre du temps cette semaine pour justement vous désoccuper. Je sais que peut-être la majorité d'entre vous sont très, très occupés, mais prenez donc un peu de temps chaque jour pour ne rien faire et être plutôt. Parce que être, pour moi, c'est une valeur beaucoup plus profonde. C'est quelque chose qui est permanent. Alors que le faire, tout ce qu'on fait ici va rester ici dans ce monde de représentation, dans ce monde d'illusion. Alors, merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. On va vous laisser avec une chanson de Cana qui s'appelle « Tranquille ». Et je vais en profiter pour remercier le mouvement jovialiste et Radio Centreville de nous appuyer dans ce projet. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine et bon week-end.
Bonne semaine, à la prochaine.
Venez écouter nos émissions sur propos-sur-le-bonheur.com. Mmh.
soleil, profondément ancré dans cette envie de ne rien faire. Je me fais couler un bain, je me jette à l'eau, tranquillement exposé au boulot. J'en fais pas trop, il m'en faut vraiment beaucoup plus pour enclencher le turbo. Je veux pas aller au bureau, je veux pas aller au boulot l'été quand il fait chaud.
Turbo, je vais aller au...